Et je voulais vraiment avoir un message d'amitié à l'égard de tous mes amis mauritaniens et sahéliens.
La paix du Sahel appartient d'abord au Sahel.
Écho du Sahel.
Écho du Sahel.
Écho du Sahel. Sahel, Sahel, Sahel. Écho du Sahel. Pierre Kamat, Michel Germano, Alex Kodjo, Jean-Claude Rakotorila, Pierre Legrand, Thierry Doll, Daniel Larib et Marc Ferret, Fiacre Bedji, Edith Blay, Luca Taketo, Kirk Woodman et plus récemment Sophie Petronin et Soumaïla Cissé. Tous ont comme point commun d'avoir été enlevés puis pris en otage par des groupes armés au Sahel. Si certains ont été tués par leurs ravisseurs ou lors de tentatives d'opérations de libération, d'autres ont eu plus de chance et ont pu être libérés après de longues et complexes négociations pouvant durer des années entre leurs ravisseurs et leur pays d'origine. Alors, comment se négocie une libération d'otages? Qui en sont les acteurs? Des rançons sont-elles forcément payées? Faut-il aller plus loin et négocier la paix avec les groupes armés au Sahel? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons l'honneur d'avoir en ligne depuis le Burkina Faso Amirou Ousmane Diko, l'émir du Liptako. Bonjour Votre Majesté.
Bonjour à vous, bonjour à vos chers auditeurs et auditrices.
Nous avons également en ligne le grand journaliste Lemine Oulsalem, spécialiste des mouvements djihadistes au Sahel et auteur du film Salafiste en 2016 et du livre L'histoire secrète du djihad, publié en 2018 chez Flammarion. Bonjour Lemine.
Bonjour.
Bienvenue dans Écho du Sahel.
Écho du Sahel.
Écho du Sahel.
Écho du Sahel. Sahel, Sahel, Sahel. Écho du Sahel. La première question, je voudrais la poser à Lemine Oulsalem. Alors que les libérations de la Française Sophie Petronin et de l'opposant malien Soumaïla Cissé étaient annoncées comme quasi actées en début de semaine par de nombreux médias, d'ailleurs le communiqué de la présidence malienne indique le 6 octobre comme date de libération, ils ont finalement été laissés libres deux jours après. Comment l'expliquer, Lemine? Y avait-il un blocage dans les négociations?
Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, Khalidou, si, si, si. Même si le principe de la libération de Soumaïla a été acquis depuis très longtemps, et puis celui de Sophie Petronin il y a de cela 4 ou 5 semaines, à la dernière minute, quand il s'est agi de procéder à la libération des détenus djihadistes ou présumés tels qui étaient dans les prisons maliennes et nigériennes également, parce que beaucoup de gens oublient que parmi les 200 et quelques djihadistes ou présumés djihadistes qui ont été libérés, certains parmi eux viennent de prisons nigériennes. Alors quand il s'est agi donc de procéder à l'exécution de cet accord entre le JNIM, Jamaat Nusrat al-Islam al-Muslimi, c'est-à-dire le groupe de soutien de l'islam et des musulmans que dirige Iyad Agrali, l'ancien rebelle Touareg, alors dans cet accord consistait en la libération de plusieurs dizaines, donc de 200 à peu près, détenus qui étaient dans les prisons maliennes et quelques-uns dans les prisons du Niger, contre la libération de Soumaïla Cissé, Sophie Petronin et les deux otages italiens. À la dernière minute, au moment où les autorités maliennes avaient déjà procédé au transfert de plusieurs dizaines de détenus de Bamako à la région de Tessalit, où les JNIM devaient récupérer ces détenus, les Américains sont intervenus dans le processus, puisque parmi certaines personnes figurant en tête des listes des détenus réclamés par les JNIM, il figurait l'organisateur, ou plus ou moins, en tout cas, l'un des responsables des attaques de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, mais surtout de l'attaque contre l'hôtel Splendid à Ouagadougou, où un citoyen américain, un pasteur, qui vivait au Burkina Faso, avait trouvé la mort. Or, il s'agit de Mimi Ould Baba Oulcher, dont le père est une personnalité malienne assez connue, dans le nord, dans la région de Gao notamment, où il est maire de la petite localité de Tarkent. Et donc, ce veto américain contre la libération de Mimi Ould Baba Oulcher a failli faire tout capoter. Et finalement, à la dernière minute, le rajout de d'autres détenus dans la liste a permis finalement de une issue favorable, en fait, la libération de Soumaïla et des autres otages. Il faut dire que ça a quand même été l'un des processus de dénouement de prise d'otages, en fait, de libération d'otages, qui a quand même été un des plus complexes. Alors, il faut se poser la question maintenant, comment exactement, en dehors de la libération, en fait, d'échange de prisonniers, si vous voulez, ou d'échange d'otages contre prisonniers, est-ce qu'il n'y a pas eu autre chose, c'est-à-dire notamment d'autres concessions. Vous avez parlé tout à l'heure dans l'introduction de l'idée de rançon. J'estime que de poser la question aujourd'hui, c'est très légitime.
Amirou Ousmane Diko, vous êtes l'émir de l'UPTACO. Lorsque vous apprenez que la condition sine qua non pour libérer ces otages est la remise en liberté de prisonniers, parmi lesquels des djihadistes qui ont pu mener des attaques dans des villages du Sahel ou des grandes villes. L'émir a parlé tout à l'heure de l'attaque du Splendid de Ouagadougou en janvier 2016. Comment le prenez-vous? Quel message est envoyé aux populations civiles?
Bien sûr, c'est très inquiétant. Mais il faut parler plutôt de la complexité de la chose, c'est-à-dire de négocier ou pas, contre quoi, avec quoi. C'est ce qu'on essaie juste de voir actuellement. Et depuis plusieurs années, on voit que la situation dans le Sahel, je parle de mon Sahel, là, je ne parle pas du Sahel qui s'étend de l'Atlantique à la mer Rouge. La situation est assez préoccupante. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut négocier ou laisser la situation aller comme ça? Bon, mais les négociations, il en faut toujours. Contre quoi, je dis, et pourquoi? Ben là, on a vu ce qu'ils ont fait. Espérons seulement que la négociation ne s'arrêtera pas à ce niveau et qu'elle va continuer et qu'on va trouver un point commun pour vivre ensemble dans la paix.
Lémine Oussalem, j'aimerais bien que vous expliquiez aux auditeurs, il y a de nombreux auditeurs qui se demandent comment se négocie une libération d'otages et qui en sont les acteurs, les intermédiaires en général.
Avant justement de répondre à votre question, j'aimerais bien souligner l'intelligence des propos de Son Altesse, le maire du
Congo. Je vous en prie.
Effectivement, il faut absolument, derrière cette idée de faut-il ou pas négocier pour libérer des otages, faut-il ou pas tout simplement négocier aujourd'hui avec les groupes djihadistes? Cela fait 7 ans qu'il y a une opération militaire d'envergure contre les groupes djihadistes qui étaient d'abord limités au seul nord du Mali et qui aujourd'hui se sont répandus dans toute la sous-région, surtout le Burkina, donc le pays de Son Altesse, qui est aujourd'hui quasiment à la moitié, quasiment aujourd'hui, quasiment ingouvernable, c'est-à-dire quasiment toute la moitié nord du Burkina Faso n'est plus aujourd'hui sous le contrôle réel et effectif de l'État. Alors faut-il ou pas négocier, ou faut-il continuer la guerre? À un moment donné, je pense que de toute façon, tous les conflits finissent toujours par une négociation. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Irak, on l'a vu même en Somalie, quelle que soit par ailleurs la situation actuelle de la Somalie. On l'a vu en Algérie avec l'insurrection islamiste des années 90, elle a fini bien sûr par une forme de compromis entre les maquisards islamistes et l'État algérien. Et pourquoi pas au Sahel? La question se pose, elle est très légitime, la question posée tout à l'heure par Son Altesse l'émir du Liptako. Cela dit, comment ça se négocie? En général, bon, ça varie d'une situation à une autre. Par exemple, on sait que dans le cas... dans le cas de Somaïla Cissé et de Sophie Petronin et des deux autres otages, ex-otages italiens, c'est l'État malien qui a pris l'initiative tout d'abord de libérer Somaïla Cissé. N'oublions pas quand même qu'il jouit d'une place assez particulière dans son pays. Il a été ministre, c'est une figure politique très connue, c'est le chef de file de l'opposition, il a été président de la commission de l'Union monétaire ouest-africaine. Il était en pleine campagne législative dans sa région natale, c'est-à-dire la région de Niafouké, et son enlèvement en mars dernier était un véritable choc au Mali. Alors l'État malien, les autorités maliennes ont en urgence décidé de tout faire pour le libérer. Et vous savez, les Maliens se connaissent entre eux. Une des leçons peut-être à tirer aujourd'hui de ce qui s'est passé au Mali, très honnêtement, en dépit des chiffres, etc., de ce qui peut choquer ou ne pas choquer, c'est que quand même, c'est avéré que les Maliens se connaissent très bien entre eux. Qu'ils soient du nord, du sud, de l'ouest, qu'ils soient djihadistes ou pas djihadistes, qu'ils soient les services de renseignement, les autorités. Et alors très vite, ils ont mis en place un plan de libération. Donc, ils ont contacté certaines personnalités qui connaissent d'abord la région de Niafouké, puis après d'autres qui connaissent les zones beaucoup plus au nord et qui pourraient éventuellement avoir accès aux ravisseurs ou à leur chef, ce qui d'ailleurs très vite a permis d'avoir une preuve de vie de Somel Assissé. Et puis après, le processus n'avança pas à un moment donné. Les Maliens ont dû changer d'équipe pour confier la médiation à quelqu'un qui a déjà par le passé réussi à libérer des otages, notamment le Touareg qui était député du parti de Ibeka, c'est-à-dire le président malien déchu en août dernier. Et Ahmed Agdibi est parvenu très vite à obtenir un accord pour la libération de Somel Assissé, et puis celui de Sophie Petronin et des autres Italiens. Alors, tout dépend en fait, tout dépend des situations. Il y a eu des cas dans les années 2000, par exemple, la libération par exemple, d'otages français comme Pierre Kamat, qui avait été enlevé à Menaka. À l'époque, sa libération a mobilisé non seulement beaucoup de monde, mais beaucoup de pays. Par exemple, sa libération a impliqué la libération des Français ont dû recourir à l'aide de plusieurs médiateurs, de plusieurs pays de la sous-région, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Mali. Et il a été échangé contre plusieurs djihadistes de très grande importance qui étaient détenus dans les prisons maliennes, donc notamment Hamad Aoud Mohamed Khayrou, le Mauritanien, qui était le fondateur du Mujao, mouvement pour l'unité légère en Afrique de l'Ouest, qui en 2012 avait pris le contrôle de Gao, et d'autres djihadistes. Et d'où d'ailleurs la question aujourd'hui, quand on pose la question, est-ce que 200 détenus présumés islamistes contre Somel Assissé et Sophie Petronin, est-ce que ce n'est pas beaucoup? Vu le nombre, oui, on peut penser que c'est beaucoup, mais auparavant, tous ceux qui ont été libérés pesaient beaucoup plus que 200. Quelqu'un comme Ahmad Mohamed Khayrou, qui a été pris à Gao en train de fabriquer des explosifs, n'était pas à lui seul, il valait beaucoup plus que 200 parce qu'il est le fondateur du Mujao. Il finira plus tard, par inspirer le ralliement d'une partie du Mujao à l'État islamique dans le Grand Sahara, et qui est aujourd'hui le groupe le plus violent au Mali et au Burkina Faso et au Niger.
Mais vous parliez de rançon tout à l'heure. On va maintenant écouter une déclaration de François Hollande en 2013. Il était alors président de la République française et il exprimait sa politique, la politique de la France concernant la libération d'otages.
Nous recherchons tous les contacts. Nous utilisons les intermédiaires qui peuvent être les plus utiles. Nous ne changeons pas notre principe qui est le non-versement par la France de rançon.
Lemine Salem, est-ce qu'un pays comme la France peut libérer des otages sans verser de rançon? Vous y croyez?
Je n'ai pas de preuves formelles personnellement que la France ou un autre pays a déjà donné des rançons. Mais c'est une question de logique. Mais par contre, oui, j'ai des confidences. J'ai même discuté avec des médiateurs ayant obtenu la libération des otages, que ce soit chez Al-Qaïda au Maghreb islamique à l'époque d'Abu Zayd ou chez Al-Mourabitoun à l'époque de Mokhtar Ben-Mokhtar. Il y a absolument tout le monde, tous les médiateurs qui ont été impliqués dans des libérations d'otages occidentaux dans le nord du Mali m'ont parlé de rançon. Aucun d'entre eux, même tout à l'heure, juste avant de vous parler, j'ai parlé avec deux personnes ayant été impliquées dans la libération d'otages. Et la question était revenue. Évidemment, pour eux, il n'y a pas de pays ayant obtenu la libération de ces otages sans qu'il y ait le paiement de rançon. Certains pays procèdent à l'usage de ce qu'on appelle les fonds secrets, qui sont des fonds qui sont mis à la disposition des autorités étatiques et qui sont exemptés de contrôle. Et d'autres recourent à des procédés beaucoup plus indirects. On sait très bien qu'à l'époque de la Libye de Kadhafi, Kadhafi a souvent joué les intermédiaires par plusieurs agences libyennes ou des personnalités libyennes en payant des rançons à la place de certains pays, mais sans doute il y a une sorte de contrepartie. On parle aussi de l'Irak, du Qatar qui a payé pour plusieurs pays. Évidemment, il y a toujours rien n'est gratuit entre États. Et on parle aussi de personnalités même sahéliennes. Il y a une personnalité, un homme d'affaires très riche d'un pays du Sahel, qui lui-même avait payé de sa propre poche la libération des otages espagnols qui avaient été enlevés par le Mujahou, je ne me souviens plus de la date, 2008 je crois ou 2009, sur la route entre Ouagadougou et Nouakchott en Mauritanie sur l'Atlantique. Cette libération a eu lieu, non seulement elle a donné lieu à un échange de prisonniers, parce que le fameux Omar Sahraoui, ou dit Omar Tilemsi, le Malien, qui à l'origine de cet enlèvement avait fini par être rattrapé par les Mauritaniens, et il a été libéré par les Mauritaniens en contrepartie de la libération de ces Espagnols, mais en même temps en plus d'une rançon, et cette rançon n'a pas été payée ni par la Libye, ni par le Qatar, ni par l'État espagnol directement, ni par l'État mauritanien, mais par un homme d'affaires de la sous-région.
On va ouvrir un autre débat maintenant. L'émir du Liptako en parlait tout à l'heure. Alors qu'on constate que visiblement un dialogue est possible avec des groupes armés pour libérer des otages, certains États sahéliens se demandent si on ne peut pas aller plus loin et tout simplement négocier la paix. Dans une interview accordée à France 24 et à RFI le 10 février 2020, l'ex-président malien Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta a révélé que l'État malien allait entamer des négociations avec les chefs djihadistes Yada Gali du groupe de soutien à l'islam aux musulmans et Amadou Koufa de la Katiba du Massina. On va l'écouter d'ailleurs, on va l'écouter. Et
moi j'ai travaillé avec Yad Akulouba, nous avons fait mon conseiller diplomatique, lui conseiller aux deux affaires du président Konaré à l'époque. J'avais gardé le souvenir d'un homme côtoie à Venant, je ne sache pas qu'il soit demeuré celui-là, d'après tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui. En tous les cas, beaucoup d'actes ont été commis. Et je voudrais dire aussi ceci. Cette histoire de dialogue, de dialoguer avec Koufa et Yad n'a pas surgi comme ça, au réveil d'un somme de Ibeka. Nous avons au Mali tenter la gageure d'un dialogue national inclusif. On nous l'a dit impossible, on nous l'a dit plein de risques, on nous l'a dit ça va être l'alali, ça va être également le démantèlement de l'accord pour la paix et la réconciliation, l'occasion pour que ceux-là qui ne l'ont jamais admis s'en donnent à cœur joie et l'on verra ceci, on en verra cela. Ce dialogue national inclusif, nous l'avons initié depuis la base, depuis les communes, jusqu'au cercle, aux régions et l'apothéose finale qui a donné les résolutions que l'on sait, à l'application desquelles nous sommes attelés aujourd'hui. Et parmi les recommandations, il y a cet aspect-là. Pourquoi pas essayer le contact avec ceux-là dont nous savons qu'ils tirent les ficelles de la situation au Mali.
Amirou Ousmane Diko, en tant qu'émir du Liptako, en tant qu'autorité, êtes-vous favorable à un dialogue avec les groupes armés pour retrouver la paix au Burkina Faso?
Tout devait finir par le dialogue, si ça n'a pas commencé par le dialogue. Mais toutes les guerres, comme disait tout à l'heure votre collègue M. Lemine, se sont terminées par le dialogue. Nous avons vu, comme il a dit, au niveau de l'Afghanistan, on a fini par le dialogue. Donc, ici aussi, il faut finir obligatoirement par le dialogue. Comme je dis, le Burkina Faso et le Mali, c'est différent parce que nous n'avons pas les chefs djihadistes ici avec qui dialoguer. C'est sous contrat que ça se fait ici au niveau du Burkina Faso. Avec qui dialoguer au Burkina Faso. Nous ne savons pas avec qui viennent, même s'il y a des intermédiaires, mais les principaux chefs, je n'aime pas beaucoup le terme djihadiste, les principaux chefs responsables de ce qui nous arrive actuellement sont basés au Mali et dans le Grand Sahara. Nous n'avons que les, nous recevons juste les contre-coups. Mais le dialogue, absolument, si on veut la paix, il faut instaurer le dialogue. Et on a vu quand même que depuis des années, les armes n'ont pas suffi pour faire taire ce qui nous arrive. Donc, je suis d'accord qu'il y a le dialogue. Mais seulement, contrairement aux autres pays, nous, ce sont les États qui dialoguent avec les autres, ce ne sont pas les communautés. Il faut absolument que les communautés qui subissent les contre-coups de ces phénomènes-là soient impliquées dans le dialogue.
Lémine Moussalem, une réaction ?
Oui, bien sûr. Je pense que l'émir a absolument raison de demander l'implication des communautés, parce que de toute façon, une paix négociée entre deux acteurs étrangers au terrain risque de ne pas avoir d'application concrète. Mais cela dit, cette nécessité de dialogue n'exclut pas, bien évidemment, la poursuite d'une politique sécuritaire solide, etc., bien pensée, solide, avec des objectifs clairs, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on tâtonne. Ça, parfois, quand vous demandez aux populations, aux villageois et aux nomades qui habitent au Burkina Faso, au Mali, au Niger, ils ont l'impression, ils ne comprennent même pas s'il s'agit d'une lutte antiterroriste ou plutôt d'une espèce de guerre qui les dépasse. Et parfois, certains parlent plutôt de répression ou d'exaction. C'est comme s'ils se sentaient eux-mêmes visés en tant qu'entité, notamment les Peuls, ça je veux le dire de manière très claire. Hein. Les Peuls du Massina, les Peuls du Burkina Faso aujourd'hui, ne comprennent même pas ce qu'il y a. Ils ne savent pas si c'est une guerre entre les djihadistes, l'État malien et le Burkina Faso, ou est-ce que c'est un règlement de compte entre groupes locaux, entre personnalités ou groupes armés dans la sous-région, ou des groupes d'intérêt, je sais pas, ou des ethnies. Tout cela doit être bien pensé, c'est-à-dire il faut dialoguer, mais ce qui n'exclut pas une politique militaire bien pensée, dont les cibles sont bien définies. Mais il ne faut pas l'oublier non plus le volet social et économique. Comment voulez-vous, par exemple, supposons par exemple qu'on gagne sur le plan militaire, supposons aussi qu'on arrive à parvenir à un accord entre les États et les différents groupes armés. Et qu'est-ce que vous faites de la masse de la population qui est là, les jeunes qui ont rejoint ces groupes, parfois juste pour par esprit de revanche contre un sentiment d'injustice qu'ils estiment être réel, parfois contre juste parce qu'ils n'ont pas de boulot, juste parce que ils ont leur bétail a été confisqué par les gardes forestiers, qui n'ont plus de travail. Alors vous allez les laisser, ok, vous faites quoi? Des armes. Donc vous risquez plutôt de vous retrouver dans une situation où tous ces gens soient et se transforment en coupeurs de route ou brigands. D'ailleurs, c'est un phénomène bizarrement très répandu dans le Sahel, exception faite de la Mauritanie et du Sénégal en Afrique de l'Ouest. Ce sont deux pays peut-être qui, pour le moment, échappent à ce phénomène de brigands, de coupeurs de route, de bandits armés sur les routes. Et si on ne peut pas négliger l'aspect social. Si je ne fais pas de petits projets comme on en fait depuis 40 ans en Afrique, dans le Sahel, on creuse un puits, une petite coopérative pour apprendre aux femmes comment découper de la viande séchée. Non, de vrais projets, de vrais projets, développement locaux qui transforment rapidement, c'est-à-dire sur une échelle assez raisonnable, la vie des gens. C'est-à-dire en 5, 6, 10 ans quoi, qu'on voit. Bien que quand ces politiques de développement local sont menées, qu'elles transforment la vie du village, la vie de la région, créent de la richesse, des emplois, etc. Aujourd'hui, la vie d'un gamin né en 2015 et celui qui est né en 1995, aujourd'hui, ils ont quasiment la même vie, hein, que ce soit dans le Gourmand, que ce soit dans le Liptako, et c'est malheureux. Donc on ne peut pas. En fait, c'est un ensemble. Il faut absolument, bien sûr, un volet militaire assez bien pensé. Il faut, à mon avis, de toute façon, on finira, qu'on le veuille ou pas, par dialoguer. De toute façon, il n'y a jamais eu de conflit qui ne finit pas. Il ne peut pas se terminer. Personne n'écrasera l'autre de manière où le fera disparaître de terre. Ce n'est pas possible. Le rapport de force ne le permet pas aujourd'hui. On finira à un moment donné par s'asseoir sur une table, négocier des conditions de reddition peut-être, une sorte de paix, etc. Mais il ne faut pas négliger l'aspect social, économique, développement, et aussi bien au niveau local qu'au niveau de national, quoi.
Oui, donc si j'ai bien compris, le tout militaire seul ne suffira pas. Il faudra un développement à long terme pour pouvoir avoir une paix durable dans cette région. Et Amirou...
Pas à long terme, non, plutôt à court terme. Il faut que les gens voient ces politiques de développement. Le problème du Sahel, c'est qu'on met... Depuis 30, 40, 50 ans, le mot développement est là dans le vocabulaire africain, mais personne ne voit rien. C'est comme si se développer devient quasiment un miracle impossible à atteindre, quoi. Alors que... Il y a des milliers, un pays comme le Mali par exemple, depuis le déclenchement de l'opération Serval en 2013, il y a eu des milliards et des milliards de francs CFA qui ont été dépensés, mais l'écrasante majorité, moi je suis tout le temps au Mali. Et je n'ai pas vu un changement dans le mode de vie des Maliens aujourd'hui. Le standard de vie n'a pas changé. Et je ne parle pas certainement dans quelques petites poches au Mali où certains ont dû peut-être capter. Les résidus de cet argent, ou complètement cet argent, oui, mais les personnes concernées elles-mêmes, qui sont dans le Massina, qui sont dans le nord du Mali, la vie n'a pas changé. Allez à Tombouctou, vous allez voir. Allez à Gao, vous allez voir. Allez à Gossi. Et on leur parle de développement, mais à la fin... ils ne voient rien, et les jeunes de cette région, un gamin de 15, 16, 17 ans, qui n'a aucune perspective devant lui, il ne sait même pas ce qu'il deviendra dans 10, 15 ans, on lui donne une arme, des chaussures, de quoi manger, de quoi boire, même si ce n'était pas des islamistes, n'importe quelle rébellion qui viendrait dans cette région, il partirait avec.
Amirou Ousmane Diko, vous êtes d'accord avec ce que dit Lemine ?
Mais oui, pour revenir, il a dit... que les choses ont commencé, si j'ai bien perçu ces mots, depuis les années 90. Il a raison, parce que si on parle de la rébellion Touareg dans notre région, au niveau je parle du Sahel, le Sahel malien et nigérien, ça a commencé en ce temps. En ce temps que les jeunes ont commencé à avoir la technique de la maîtrise d'armes. Ensuite, vient le démantèlement de la Libye, qui a ramené des armes et des hommes sur nos territoires et qui a amplifié le phénomène. Donc il a trouvé des gens déjà capables d'utiliser des armes qui étaient prêts à les recevoir. Maintenant, revenons de plus près au niveau du Burkina Faso dans les années 2016 et autres. Mais tout ça est lié à ce qu'on appelle la peur de l'individu face à sa sécurité. Quelqu'un qui est en face d'une situation d'insécurité, qu'est-ce qu'il fait? Ou bien, il se trouve dans une situation de survie, donc il est obligé soit de faire profil bas et de céder à la pression du moment. Ou bien, il recourt à des prestataires de services de sécurité qui sont des milices et autres groupes armés. Ou bien, il assure sa sécurité personnelle parce qu'il y va de sa quiétude personnelle. Soit il sort, soit il rentre dans un groupe armé, ce qui revient à la même chose. Donc, il n'y a personne qui, en soi, est un volontaire terroriste. C'est la situation qui fait ça. Et la sécurité, c'est la deuxième place, occupe la deuxième place des besoins physiologiques humains. Nous savons très bien. Il faut se sentir protégé pour mener à bien, en toute sécurité, sa activité sociale, économique et spirituelle. Moi, j'ai vu que spirituelle, pour chaque individu, c'est nécessaire.
Amirou Ousmane Diko, je rappelle que vous êtes l'émir du Liptako, vous parliez du manque d'implication, du manque, on ne demande pas assez aux communautés d'être dans le dialogue avec pour parler ou dans le dialogue. Avez-vous déjà tenté avec d'autres chefs de village qui viennent vous voir de vous réunir autour d'une table et d'entamer un dialogue ou de négocier un cessez-le-feu avec des groupes armés?
Oui, mais avec qui et comment? Parce que, en fait, l'État qui a le monopole, qui avait le monopole de la force, ne l'a plus. Et nous, avec quoi nous allons dialoguer à ces gens? Est-ce que nous savons qui sont ces gens? Nous avons discuté des problèmes entre nous, mais de là à entamer un dialogue, non, ça appartient à l'État de le faire.
Et justement, quel est l'esprit des chefs du village, quel est l'état d'esprit des chefs du village du Sahel? Que vous disent-ils?
Ils déplorent le problème de conflit, le problème de sécurité. C'est tout ce qu'ils me disent, parce que imaginez-vous des gens qui font face à des problèmes de sécurité, font face en même temps à des problèmes d'injustice. Comment voulez-vous qu'ils disent? Avec qui ils peuvent discuter, si ce n'est avec nous, les émirs et autres? Nous aussi, nous réunissons, essayons de faire le relais et de dire aux autorités ce qui se passe. Mais le sentiment, tous sont dans un sentiment d'insécurité. Et comme je vous dis, ils ne bénéficient pas ni de sécurité, ni de justice par rapport lorsqu'ils sont victimes d'insécurité. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé à Yergou et ailleurs pour comprendre le phénomène.
Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Donc, je vais vous poser une dernière question à vous deux. Vous allez répondre l'un après l'autre. Si on trouve des interlocuteurs, êtes-vous pour un dialogue, pour négocier un cessez-le-feu avec des groupes armés? D'abord, Lemi Noun Salem.
Malheureusement, je ne suis ni chef d'État, ni chef d'État-major, ni chef de groupe armé. Mais je pense que tout dépend ça dépend de chaque pays, de la configuration réelle du conflit. Et je pense que de toutes les façons, on ne peut pas faire l'économie de... En tout cas, vu la situation actuelle du Sahel, puisqu'on parle du Sahel, je ne vois pas comment faire taire les armes si, à un moment donné, on ne dialogue pas. Mais je le répète, c'est une politique globale qui implique le militaire, le social, bien sûr le politique, mais également le religieux. Son Altesse tout à l'heure parlait justement de communauté, etc. Dans tous les pays où les islamistes ont accepté à un moment donné, par exemple, de déposer des armes, il y a eu recours aux chefs religieux. Le cas algérien, par exemple, la concorde civile n'a pas été obtenue comme ça. Hein. Il a fallu des arguments religieux, théologiques très forts pour convaincre les combattants islamistes que ce qu'ils faisaient n'était plus du tout du djihad. En Mauritanie, l'obtention du repentir massif de plusieurs de centaines de jeunes qui étaient allés chez Bel Mokhtar ou chez Abou Zeid dans le nord du Mali n'a été obtenue que par l'utilisation d'un bataillon de oulémas et de religieux qui pendant très longtemps allaient les voir en prison discuter avec eux sur les bases théologiques même du djihad, pour leur dire, voilà, vous vous trompez, c'est pas... Le Maroc utilise la même méthode, l'Arabie Saoudite a utilisé la même méthode. Je pense qu'on ne peut pas... Et d'ailleurs, quelqu'un qui connaît très bien Iyad le répète tout le temps, il dit, Iyad est récupérable, Koufa est récupérable, mais non seulement...
Lemine, excusez-moi de vous couper, Lemine, excusez-moi de vous couper. Oui. Ça veut dire quoi, les récupérables?
Sont récupérables, par exemple, oui, quand certains pensent qu'ils sont récupérables s'ils obtiennent un certain nombre de concessions, politiques notamment, mais d'autres pensent que dans la mesure où ils mettent en avant un argument religieux pour justifier leur engagement d'un djihad, certains disent que Iyad et Koufa disent toujours « amenez-nous des oulémas qui parviennent à nous convaincre que cette voie que nous avons choisie n'est pas légal selon nos convictions religieuses, et là on abandonne les armes. Je l'ai entendu plusieurs fois avec des gens qui les connaissent très bien.
Émir, vous avez peut-être une réaction?
Oui, j'ai une réaction, bien sûr. Nous voyons depuis des années le lourd tribut qui est payé par les militaires, autant par les civils. Et si ça, ce n'est pas faire fermer l'idée de discuter d'une solution, de solution plutôt de dialogue, avec qui que ce soit, mais je ne vois pas quelle est l'autre solution que de dialoguer. Hein?
C'est
il n'y a pas une semaine, sans qu'on ait des conflits communautaires, avec leur engrenage de violence, tuerie et représailles. il faut bien sûr dialoguer. Et nous avons des mécanismes, les communautés ont leur propre mécanisme de dialogue. Arrêtons d'importer des mécanismes qui viennent d'ailleurs. Nous en avons. Nous avons notre propre système de loyer jirga. Voilà. Tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Il faut dialoguer, absolument dialoguer.
C'était le fin mot de cet épisode. Merci à vous, Émir Amirou Ousmane Diko, et merci à vous, Lemine Oul Salem.
Merci à vous.
À très vite. Bye bye dans Écho du Sahel.
Écho du Sahel.
Écho du Sahel.
Écho du Sahel. Sahel. Écho du Sahel.